descend au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel.
Passé de quelques minutes sur les ondes de Radio Campus 106,6 et c'est l'heure de commencer notre émission Tous Essentiels avec Virginie. Bonjour Virginie.
Salut Max.
Ça va bien ?
Ça va.
Bon, et tu nous as ramené un invité, dis-moi.
Oui, il s'appelle Bernard Deleu et figure-toi qu'il a travaillé dans la fonction hospitalière. Il est aujourd'hui heureux retraité, mais néanmoins super actif et on peut le qualifier de syndicaliste de gauche. Pour faire un peu vite, parce qu'on a décidé d'être transpartisan au MFRB, on vous rappelle que cette émission explore l'idée du revenu de base dans toutes ses coutures. Donc on ne citera pas de syndicats ni de partis. Et néanmoins, pourtant, on va en parler. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu es d'accord pour passer à la moulinette de notre question traditionnelle avec un revenu de base ? Qu'est-ce que tu ferais ?
Tout à fait. Merci de m'avoir invité là.
Qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu aurais fait en recevant un revenu chaque mois sur ton compte sans rien faire, travail ou pas ?
Pour aujourd'hui, c'est un peu difficile à répondre. Je dirais que, effectivement, dans le passé, avec la famille et tout ça, ça aurait certainement pas mal aidé aussi. Le fait d'acheter une maison, de passer beaucoup de temps aussi à faire des travaux. Je pense qu'un revenu de base, un revenu supplémentaire, aurait permis quand même de vivre plus ensemble sans avoir toutes ces charges-là. Je pense que pour acquérir un logement, c'est important aussi en début de vie. Après, je dirais maintenant, à la retraite, je me plains pas de la retraite, je pense que j'en aurais peut-être moins besoin maintenant. Je pense que c'est surtout avant, avec la famille, quand on s'installe, c'est difficile. Puis ensuite, effectivement, après une séparation aussi, c'est jamais facile non plus de vivre aussi.
Donc j'entends en termes de sécurité par rapport à la maison, avoir un logement, sécuriser la famille et puis passer plus de temps aussi.
Sécuriser, donc, surtout passer plus de temps et pouvoir faire autre chose aussi que de passer beaucoup de temps aussi à la maison. Et puis en même temps, ça permet aussi, quand on a des travaux, de les faire et aussi donner du boulot aussi à d'autres.
Partager et puis avoir du soutien.
Partager aussi le travail. Je vois plus dans ce sens-là parce que Gérald pourrait partager le travail aussi que j'ai fait. Mais bon, moi, j'aimais beaucoup mon métier. Donc, je ne pense pas que j'aurais réduit sensiblement mon temps d'activité.
Est-ce que ça avait du sens pour toi, ton métier dans l'hospitalier ?
Oui, j'ai eu la chance d'avoir un métier qui me plaisait, un métier où je me sentais vraiment très impliqué et très utile aussi à la société.
Et alors, tu m'as dit que la première fois qu'on t'avait parlé de revenus de base, tu avais été un peu spontanément contre. Est-ce que tu peux nous dire
C'était en début 2013, quand il y a eu quand le mouvement a démarré. C'est vrai, quand on m'en a parlé, ma première réaction, c'est vrai qu'en tant que syndicaliste, en ayant à l'idée toujours l'intérêt d'avoir un travail, d'avoir un emploi, etc., de défendre l'emploi pour tous. Je me disais, un revenu de base, c'est de l'argent qu'on donne comme ça sans travailler. Bon, ça, c'est aussi, je dirais, toute une tradition de militants aussi, pour lequel l'argent qu'on gagne, c'est avec ses bras, la sueur de son front, quoi.
C'est mérité, quoi.
Je pense que c'est lié à toute une tradition. Mais bon, très vite, j'ai réagi en me disant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on donne de l'argent aussi à des gens parce qu'on a créé une situation de chômage grave, depuis maintenant, pas loin d'une cinquantaine d'années, 40 ans, 50 ans, oui, mais je dirais même une cinquantaine d'années. Donc progressivement, on a mis des gens au chômage plutôt que de réduire le temps de travail. Et pour éviter l'explosion sociale, on a créé d'abord le RMI, maintenant c'est le RSA, qui sont des revenus quand même, moi j'ai toujours dit, ce sont des revenus d'indignité. Parce que c'est lié à une condition où il faut absolument retrouver du travail et accepter n'importe quel boulot alimentaire, je dirais, pour vivre, hein, pour survivre. Donc très vite, je me suis dit, bah oui, tant qu'à faire à donner de l'argent, autant le donner déjà à tous, faire un système égalitaire, puisque bon, le revenu de base, le revenu universel, c'est prendre en compte, tu le rappelleras peut-être, mais là, l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que chacun a droit à un revenu suffisant pour s'assurer une vie digne, se nourrir, se loger, avoir accès aussi à la culture, ouais, etc.
Au-delà des accidents de la vie.
Voilà. Donc j'ai tant qu'à donner de l'argent, autant que ce soit égalitaire, donner ce socle à tout le monde et sans condition surtout. C'est-à-dire en préservant la dignité de chacun et le choix de chacun après de choisir aussi son activité ou sa non-activité, pourquoi pas. Mais ça, je crois que c'est vraiment à la marge, parce que les gens ont besoin d'être utiles, ont besoin de faire un travail. Un travail, mais j'entends par travail, pas forcément emploi rémunéré, mais tout un travail. Comme tu disais, je suis assez actif quand même dans l'associatif. Moi, je pense que ça, c'est aussi un travail. Hein. C'est du bien-être pour la société, c'est du temps qu'on donne et c'est du temps pour soi aussi, parce que c'est, je pense, pour soi-même, c'est très valorisant aussi de se dire qu'on continue à être utile, bien que retraité.
Et je te remercie, parce que là, ce que j'entends vraiment dans ton parcours, c'est qu'il y a eu une sorte de réflexe conditionné, tu le dis bien, hein, par la famille, par la société, par beaucoup d'influences et de croyances.
L'histoire aussi.
Que la valeur travail, en fait,
ouvriers, hein.
Alors, cette valeur travail qui est en fait la valeur d'utilité, on a tous envie qu'il y ait une réciprocité dans la société, que chacun, selon ses moyens, bien sûr, au niveau individuel, participe au collectif. Donc ça, c'est la valeur... ajuster. Par contre, le problème qu'on voit, c'est qu'il y a une dérive capitaliste aujourd'hui qui transforme discrètement mais sûrement cette valeur travail en valeur emploi. C'est comme s'il n'y avait que l'emploi qui était une reconnaissance d'une utilité. Et ça laisse en fait au marché du travail carrément un monopole de l'évaluation de l'utilité sociale d'une activité et plutôt même d'une valeur économique, puisqu'on voit bien, on l'a vu depuis le début du premier confinement, etc., d'autant plus que ce n'est pas les métiers les plus utiles qui sont les plus rémunérés, et même qu'il y a des métiers qui sont très bien rémunérés, qui sont carrément toxiques, que ce soit à l'humain, même à l'économie ou à la planète. Et donc on voit aussi dans ce fil rouge que le travail devient un coût, que les cotisations deviennent des charges. Et en fait, on voit aussi que les syndicats, même de gauche, réclament un droit au travail, par exemple, et ça devient en fait un droit à l'emploi. C'est pas, on a perdu cette idée originelle de la réciprocité sociétale. Et ils oublient presque quelquefois de rajouter décent, en fait. Donc le travail des syndicats, c'est de nous accompagner à améliorer les conditions de travail et pas forcément à tout prix trouver un emploi dans cette société où l'aune, ce qui sert à évaluer et à distribuer les tâches nécessaires à la collectivité, n'est pas du tout ajusté ni à nos besoins ni à nos envies, mais juste à une super production monétaire qui va dans quelques poches. Donc, on va lancer ce premier thème avec un constat sur le marché du travail aujourd'hui pour ne pas partir de notre réflexion sur des rêves. Et Maestro, on te laisse nous partager tes pépites musicales.
Eh bien, allons-y. Je vous propose pour commencer, pourquoi pas une Java des acédiques, les acédiques par les escrocs plutôt. C'est parti.
Et on enchaînera avec le témoignage de Jian.
J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais Et c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Ah, Cédric, je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement. Dans mon île, ah, Cédric, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera des mots. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, que chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Cédric, je t'écrirai de temps en temps.
Je suis agent d'entretien dans la fonction publique à la MEL. Je suis à 35 heures, 7 heures par jour. Alors j'aime bien mon métier, oui, parce que c'est un métier indépendant quelque part. J'ai personne derrière moi. S'il y a une tâche, voilà, je l'enlève et puis voilà, c'est quelque chose de concret. Donc oui, c'est un métier quand même qui a du sens, même si c'est un métier aliénant, parce que voilà, c'est assez redondant, c'est très machinal, c'est un peu répétitif, voilà. Mais ça reste un métier où les horaires sont plutôt souples. Voilà, je fais 7h, 14h45. Ça me laisse le temps de faire rentrer, enfin, faire mes courses, faire manger, faire le ménage, faire autre chose, faire du bénévolat. Mais voilà, c'est physique quand même. Parce que voilà, si on commence tôt, ben, il faut se lever très tôt aussi. Et du coup, oui, physiquement, c'est un peu dur quand même. Moi, je ressens quand même une grosse fatigue. Et je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Donc j'ai demandé je me suis adressée auprès de service formation, la RH, et qui m'a dit que clairement elle n'avait pas les moyens, parce que voilà, payer un agent à partir en plus, parce que voilà, c'est pas dans leurs compétences, 6 000 euros à 1 300 heures, c'était pas possible. Bon, ça je veux bien l'entendre, mais voilà, moi j'ai pas les moyens. Du coup, je me dis qu'avec un revenu universel, un revenu de base, je pourrais avoir déjà du temps pour moi, donc pour me former. Je ferai du 10-15 heures. Et le reste de mon temps libre, voilà, je pourrais le consacrer à la formation. Et puis avec l'argent, je pourrais me financer cette formation. Et si, voilà, malgré tout, voilà, je n'arrivais pas à avoir l'obtention de mon diplôme, je continuerai donc d'être agent d'entretien, sans souci, mais pas à 35 heures. Voilà, parce que c'est quand même un métier qui use. Après, c'est du cas par cas, mais moi, ça m'use. Après, je vois que depuis quelques années, notre métier est quand même menacé, parce qu'on sous-traite beaucoup. De plus en plus, il y a quand même 80% du nettoyage qui est sous-traité et 20% qui est effectué par les agents d'entretien. Mais bon, ça, après, c'est des sites différents. Chez nous, c'est différent parce que nous, ils ont sous-traité les moquettes. Donc nous, on avait 35 heures. Eux, ces gens-là, voilà, ils ont 2 heures. Et dans certains sites extérieurs, ils travaillent 3 heures le matin et 3 heures le soir. Et certains travaillent même dans l'après-midi parce que voilà, il faut faire du 42 heures pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Avec un revenu universel, clairement, ces gens-là, quand tu discutes avec eux, c'est clair qu'ils ne feraient pas du 42 heures, du 35 heures de nettoyage à se faire exploiter comme ça. Et d'où l'importance, en fait, de soutenir un revenu de base. Parce que le choc culturel que je constate entre la fonction publique et la fonction et le secteur privé, il est assez important. Et je vois en fait à quel point on aliène les gens et comment on les rattache au salaire, comment le salaire est rattaché à l'individu. Et je pense que oui, il faut vraiment s'en libérer parce que l'ICE, c'est le RIC en France et qu'il est important de donner la parole à ceux qui produisent réellement les richesses dans une communauté, dans notre pays, dans l'Europe. D'où l'importance vraiment de soutenir un revenu universel, pour au moins laisser le choix. Et là, c'est une expérimentation, donc oui, il faut l'expérimenter. Et c'est pour ça que j'ai signé, que je soutiens l'idée d'un revenu, d'un ICE pour soutenir un revenu de base. Merci. Et sans régression sociale, c'est ce qu'on défend en tout cas au MFRBU, car oui, il y a plusieurs versions d'un revenu universel. Merci.
Merci à Jeanne d'avoir témoigné de ses conditions de travail. Et voilà, nous, on avait envie de commencer à rêver, mais à rêver à partir du réel, pas à rêver dans l'absolu du grand soir, etc. Voilà, à partir du concret, de ce qui existe déjà. Donc, il y a une expression qui est née, il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle le précariat, qui serait la suite du salariat. Alors, je vous renvoie à Arte, à Guy Standing, il y a des émissions très bien faites là-dessus, et qui montre qu'on passe du CDI à du CDD, à l'intérim, que l'auto-entreprise avec l'ubérisation, etc., est un piège à con, avec beaucoup de contrôle, et en même temps aucune sécu, aucun chômage, rien en cas d'accident ou maladie professionnelle, et des difficultés certaines à créer un collectif de travail, avec cette idée qui remonte de travailleurs pauvres, qui est assez choquante en soi. On ne parle même pas de ceux qui n'ont pas de travail. Et donc, du coup, on a tout ce pouvoir syndical, ce contre-pouvoir. On a quand même que 8% de syndiqués en France qui s'effritent encore plus. Et on voit en parallèle que, par exemple, ils sont en train de détruire des morceaux comme le CHSCT, le Comité d'hygiène, santé et conditions de travail, santé, sécurité et conditions de travail. Et donc, le travail devient de plus en plus une aliénation et une souffrance parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Bernard, je sais que tu as été secrétaire, en tout cas élu au CHSCT.
Oui, j'étais impliqué dans le CHSCT. Secrétaire, j'étais secrétaire de section, je n'étais pas secrétaire du CHSCT. Mais le CHSCT, c'est la seule instance. Enfin, on est là, moi, j'étais dans le public, donc il y avait d'autres commissions. C'est un peu différent de ce qui se passe dans le privé. Mais le CHSCT, justement, c'est la même chose dans le privé, dans le public. C'est la seule instance qui a réellement du pouvoir de faire changer des choses sur les conditions de travail. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on est en train de fusionner ça avec d'autres instances qui ne sont que consultatives, je pense que là, le monde ouvrier perd énormément dans la défense des droits du travail, hein. Et des conditions de travail et de la santé des salariés au travail.
Donc là, on voit, là, pour l'instant, vous voyez, on va très progressivement, on ne parle que ceux qui ont déjà un emploi. Une autre forme d'emploi qui se développe beaucoup, c'est les bullshit jobs. Entendez, job à la con, travaux à la con. C'est David Graeber qui a construit ce mot, et il est un sociologue anarchiste proche de Occupy Wall Street. Et en fait, sa définition, c'était très précis, c'est un travail dont on pense qu'il ne sert à rien et même qu'il est possiblement toxique. Et selon son étude, ça concerne entre 50 et 80% du temps de travail, y compris chez des métiers quand même assez essentiels comme les infirmières. Il explique ça par le fait qu'on a tendance à embaucher beaucoup d'assistants pour valoriser un chef. Comment voulez-vous être chef si vous n'avez pas plein d'assistants à gérer ? Et une sorte de multiplication, une auto-régénération de la bureaucratie. Il cite par exemple l'armée allemande, dont on pourrait penser quand même qu'elle est assez... qu'elle gère bien son économie, ses moyens. Eh bien non, il faut 8 personnes pour qu'un soldat puisse déménager son ordinateur. 8 personnes qui doivent travailler, qui doivent intervenir pour ça. Donc, pour faire baisser le chômage et cacher cet impact de l'automatisation, de la numérisation, on crée plein d'emplois qui ne servent à rien, mais qui ne sont pas pour autant forcément des emplois utiles, puisqu'on voit que dans le soin, l'éducation, etc., des secteurs qui ne sont pas franchement rentables, là, il n'y a aucun investissement. Donc, on voit bien que le marché du travail n'est pas très bon pour auto-réguler nos besoins d'économie. Je rappelle que économos, c'est la gestion de la maison. Et en même temps, en parallèle de ça, alors qu'il y a de moins en moins d'emplois, et c'est tant mieux, moi, mon grand-père s'est battu pour les 36 heures, il s'est battu pour libérer l'homme du travail, il se retournerait dans sa tombe, le pauvre, s'il se rendait compte qu'aujourd'hui, on crée des emplois à rien faire. Et là, on a une centralité de l'emploi, c'est-à-dire que dans les mentalités, dans les discours, dans les publicités, chez les politiques, on n'arrête pas de nous rabâcher que si on n'a pas d'emploi, on n'existe pas. On va même jusqu'à récupérer le bénévolat. Et en faire du chantage à la fin. Vous voyez les tentatives d'obliger des personnes au RSA à faire du bénévolat pour mériter les quelques sous qu'elles gagnent et qu'elles méritent déjà rien que par la dose de papier qu'elles remplissent. Donc un travail qui est non choisi est une souffrance, surtout quand il n'a pas de sens. Mais alors imaginez quand un non-travail est aussi subi, je parle du chômage. Alors qu'on pourrait se dire qu'on pourrait bien vivre le chômage en France, on a quand même relativement une sécurité, pour la plupart en tout cas, même si elle est complètement démantelée en ce moment. Eh bien, même pas. Les chômeurs ne sont pas contents d'être au chômage. Pourquoi ? Parce que moralement, ils ont une pression qui leur dit que ce n'est pas bien, ils ne sont pas à leur place dans la société. Donc, il y a évidemment de la pauvreté, il y a de la précarité, il y a de la peur financière parce que ce n'est pas assez. Et en plus, une perte de confiance en soi et même une perte de confiance dans la société. Et tout ça, ça se traduit, ça se coûte aussi, un coût très, très travaillé, enfin, qu'on peut évaluer aujourd'hui. Un coût en dépression, on est quand même les champions des anxiolytiques, on reverra ça le mois prochain sur notre thématique sur la santé, mais aussi de rébellion, c'est-à-dire qu'on va stimuler des réactions comme la fraude ou la délinquance. Rien qu'un exemple, la prime pour l'emploi. Grande trouvaille qui pourtant n'a aucun effet sur la recherche d'emploi. C'est prouvé maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'on la garde ? Pourquoi garder des conditionnements alors qu'on voit très bien que ça ne marche pas ? Le RSA conditionné au bénévolat et même le revenu universel d'activité qui vient de Macron, cette récupération du revenu universel de Benoît Hamon, qui en fait est une terrible régression puisque derrière ça se cache bien sûr une refonte des minima sociaux, mais en mettant tout et n'importe quoi puisqu'il mélange les allocations familiales, l'APL, l'AAH pour les handicapés, tout ça, il le met dans un pot commun, tant pis si certaines personnes y perdent, et le tout évidemment conditionné à la recherche d'emploi, sinon ce serait pas drôle. J'ai envie de citer Cynthia Fleury qui dit « Il y a un deuxième âge de l'État-providence à fonder ». Illustré notamment par l'avènement d'un revenu universel affranchissant l'humain de l'obligation d'un travail pour survivre. Bernard, est-ce que tu veux rajouter un petit mot là-dessus avant la pause musicale ?
Quand j'ai entendu parler du RUA de Macron, revenu universel d'activité, ma première réaction, c'est de dire ça me paraît quand même hallucinant qu'un président de la France fasse une faute de français aussi grave. Parce que parler de revenus universels conditionnés à l'activité, c'est tout à fait antinomique.
Tout à fait.
Voilà. Donc, et je pense qu'il le fait exprès aussi pour noyer le poisson et reprendre en fait l'idée. Alors là, moi je trouve que par contre c'est intéressant et je pense que c'est presque un hommage fait au revenu universel. Parce qu'il a dû sentir qu'aujourd'hui, cette idée-là, elle était très forte. Et
qu'il devait la récupérer.
Voilà.
Pour,
comme disait Victor Hugo, rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu.
Oh, c'est beau. On va rester là-dessus. Voilà. On ne remerciera pas Macron, mais en attendant, Miozé, maestro.
Il est important d'aller travailler, mais il ne faut pas en faire son métier. C'est Yvon Etienne qui nous raconte cette chanson.
Excellent.
Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est dans le fœtus un beau matin que pousse ou pas le poil dans la main. Rien que pour dire aux courageux qu'il s'en est fallu de peu. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est à l'école qu'il faut choisir, en mettre un coup et bien marner, pour pouvoir espérer devenir un vrai de vrai ramier. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Car pour buller, faut la jouer fine, pas se contenter, c'est primordial d'avoir le premier prix de cantine ou de visite médicale. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Tous les milieux sont concernés, les riches, les pauvres, même les curés, avec ceux qui passent leur journée à faire semblant de bosser. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Les ceux qui fabriquent des canons ont leur statut dans les blédards. Personne n'a sculpté le mirliton de l'inventeur du plumard. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Un jour y en a et pas le lendemain, un coup tu ris, un coup tu pleures. Car le travail ça va, ça vient, comme les burnes d'un faucheur. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer.
À l'heure actuelle, je fais plein de choses que j'aime bien et je suis pas payée pour. Et que je trouve utile, et du coup, là, en tout cas, moi, ça m'apporterait de la sérénité pour le faire d'une manière plus confortable, plus sereine, en fait. Donc je pense que moi, un revenu de base, ça me donnerait plus d'énergie, en fait, pour continuer à m'investir, pour faire des missions, finalement, que je considère utiles, mais qui, à l'heure actuelle, ne sont pas financées par le marché. Donc pour moi, un revenu de base, ça permettrait de faire ça, faire toutes ces activités utiles au commun, quoi, et non financées.
C'est l'idée de favoriser une nouvelle façon de vivre ensemble, de permettre aux gens d'avoir un revenu garanti, on va dire, et qui n'empêche pas les gens de travailler, mais au moins les gens pourront plus, beaucoup plus choisir leur travail. Que de le subir comme depuis des siècles et des siècles.
Je ne veux plus du métro boulot dodo, craindre demain, attendre en vain ma retraite, perdre ma vie à la gagner, être malade du travail ou du chômage. J'aimerais travailler moins pour voir mes enfants grandir et m'occuper de mes parents malades, faire du bénévolat dans une asso, un syndicat, un parti, me former toute ma vie pour évoluer dans mon boulot. Partir en vacances, faire du sport, de la musique, vivre plus lentement et cultiver mon jardin.
Merci Max. Excellente transition. Donc cette deuxième partie, après avoir fait un constat, une espèce d'état de lieu du réel, on va essayer de se projeter sur, et avec un revenu de base, qu'est-ce que ça donnerait. Donc je fais une petite parenthèse pour remercier les deux filles, Isaline, notamment qui ont filmé le film Les gens et le revenu de base, que vous retrouvez, où vous retrouverez les petits témoignages que nous passons à chaque émission, avec comme premier thème sur la reconnaissance de toutes les activités. On a entendu Marie-Hélène, qui est pour le coup investie dans un projet expérimental sur le revenu de base à Terra, qui est un éco-village dans le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, pardon. Et en fait, qui ne peut toujours pas dégager un salaire parce que c'est une expérimentation. Et comme Baptiste Milondeau, qui est un économiste bordelais, il a dit « Comme toute activité humaine est créatrice de richesse, alors tout le monde devrait avoir une part de la richesse produite. » C'est QFD. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on travaille tout le temps. Le bébé, dès sa naissance, il apprend spontanément. Et après, il va apprendre à marcher, à parler. Pourquoi ? Parce qu'il veut, il veut appartenir, il veut imiter, il veut prendre sa place. Après, on a, quand on est grand, le travail domestique, l'éducation des enfants, le bénévolat, mais aussi les engagements politiques et syndicaux, la formation aussi. Tout ça, quelquefois, c'est transformé en emploi. D'ailleurs, le marché du travail essaye de plus en plus d'en faire des emplois. Mais au final, si on compte, il y a 2/3 des heures de travail en France qui ne sont pas rémunérées, qui font partie de cette fameuse sphère privée ou de bénévolat et qui, du coup, ne sont pas reconnues ni comme rentables, ni comme moralement contributives à la société. Alors Bernard, tu es un privilégié, en fait, en tant que retraité.
J'aime pas ce terme privilégié parce que je pense qu'il y a vraiment des privilégiés dans notre société. Et je n'en fais pas partie. Les principaux privilégiés, les noms, on ne les a pas parce que souvent, c'est des gens qu'on ne connaît pas et qui, au contraire, restent cachés avec leur immense fortune. C'est, les 0,01% des plus riches. Je pense que ma situation, elle est une situation tout à fait normale, qui devrait être normale. C'est-à-dire avoir travaillé une bonne quarantaine d'années, pouvoir... avoir cotisé pour sa retraite, c'est-à-dire avoir financé la retraite à l'époque, parce qu'il faut rappeler que c'est intergénérationnel quand même. Quand on finance la retraite, c'est pour ceux qui sont en retraite. Et après, quand nous, on arrive en retraite, c'est les générations suivantes qui nous financent. Ça, je pense que c'est intéressant de le rappeler, cette solidarité intergénérationnelle.
Donc ça, pour moi... Donc, presque un revenu de base, déjà.
Ah, je ne dirais pas ça, parce que c'est... Oui, bien sûr. Mais la retraite, c'est... quand même lié au niveau de salaire qu'on avait.
Mais alors concrètement, le jour de ta retraite, est-ce que tu t'es arrêté de travailler au sens large ? Tu as arrêté ton emploi, bien sûr, mais est-ce que tu,
non,
tu t'es mis
devant
ta télé ?
Mon activité dans la santé a fait que quand j'ai pris ma retraite, j'avais déjà des activités dans certaines associations, mais j'ai eu envie justement à ce moment-là de continuer à m'investir dans la santé en tant qu'associatif et sur des projets de développement de notre système de santé vers quelque chose de mieux. Parce que quand je vois qu'aujourd'hui, notre système de santé se privatise de plus en plus, qu'il est de moins en moins, du moins la santé de qualité, de moins en moins accessible aux gens modestes, parce qu'effectivement, les établissements privés qu'on a... Et je dis quand même qu'on appelle à tort hôpital, parce qu'un hôpital, c'est l'accueil de tous. Ce n'est pas une clinique. Une clinique privée ne peut pas s'appeler hôpital. Ça, c'est encore une faute de langage qui est fait exprès pour tromper les gens. Moi, je me bats aussi pour des structures... De proximité. Qu'on appelle des centres de santé, qui sont aussi des structures pluriprofessionnelles, mais avec des professionnels salariés et non plus dans le cadre de la médecine libérale. Et où il y a vraiment un accueil de tous, une médecine qui peut être prise en charge totalement. D'ailleurs, je pense que la sécurité sociale, telle qu'elle a été créée, devrait prendre en charge la totalité du coût des soins. On ne devrait pas avoir besoin des mutuelles qui n'ont pas le même impact. La sécurité sociale, il faut rappeler quand même que chacun paye selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. C'est-à-dire que si on a des grosses pathologies, on va effectivement coûter plus cher, mais on n'aura pas payé plus. Alors qu'une mutuelle, voire pire, qu'on appelle aussi mutuelle aujourd'hui, encore une erreur de langage, les assurances complémentaires santé, ben, il y a plusieurs niveaux. Donc, on paye aussi en fonction des prestations qu'on a envie de recevoir. Donc, si on a des moyens, ben, on va payer plus cher et on va recevoir plus. C'est totalement, pour moi, c'est totalement différent de ce qu'est le principe même de la sécurité sociale.
Je te remercie parce qu'en fait, il y en a certains qui voient le revenu de base comme justement un nouveau pilier de notre protection sociale qui pourrait être intégré dans la sécurité sociale. Et je voudrais citer Philippe Van Parijs, qui est cofondateur du bien Basic Income Earth Network et qui témoigne, lui, du revenu de base comme en fait le pas suivant pour continuer à se libérer de l'esclavage. Donc, il y a eu l'abolition de l'esclavage officiel. Donc, matériellement, on n'est pas censé pouvoir être exploité, mais on voit comment tout notre système revient quand même à le faire, qu'on fait notre première partie. Mais le revenu de base, en enlevant cette obligation matérielle d'emploi, pourrait en fait redonner du sens. Alors, émancipation humaine, parce qu'on serait en sécurité, et pourrait redonner cette valeur travail, mais au sens propre, non pas au sens détourné par le capitalisme. Et on n'est évidemment pas non plus dans la recherche d'un droit au travail, là, cette revendication encore syndicale, mais un droit au revenu qui, en fait, serait surtout bénéficiaire pour les femmes et les précaires. Ça donnerait le choix de participer et ça pourrait redonner toute sa valeur à cette dimension de « je veux participer au bien commun, je le fais parce que j'ai besoin d'être utile, parce que j'ai besoin de trouver un sens à ma vie, j'ai aussi besoin d'appartenance, de lien, d'amitié, j'ai aussi besoin d'évoluer peut-être, d'apprendre. » Voilà. Et tous ces besoins qui sont humains, eh ben, on les investirait forcément, comme tu le dis, dans soit des associations, soit politiques, soit syndicats. Mais en tout cas, ça serait choisi et ça serait donc optimisé parce que ça partirait de nos compétences, c'est ce qu'on entend avec ton exemple, et parce que comme on en a envie, ben, on le ferait d'autant mieux. On le voit d'ailleurs dans les entreprises qui réduisent le temps de travail sur 4 jours à salaire égal, et on voit très bien que les employés finalement font le travail sur 4 jours, et même quelquefois plus, simplement parce qu'ils ont du temps pour se reposer, pour s'épanouir à côté, profiter de leur famille, etc. Ils choisissent, et du coup, ils sont juste plus productifs. C'est fou quand même. Donc, en fait, c'est un investissement, ce revenu de base. Alors, un investissement pour l'évolution individuelle, par l'autonomie, le respect de son rythme. Quand on a des enfants, quand on est malade ou même quand on a des parents malades, on n'a pas le même rythme que quand on est jeune, dynamique. Le choix de ses conditions de travail, on entendait dans le témoignage de Jeanne des personnes qui doivent venir 3h le matin, 2h l'après-midi, qui doivent revenir le soir. Comment voulez-vous construire une vie de famille ou même une vie juste avec des loisirs ou du temps libre, du temps pour la formation, en fait, tout ça au niveau individuel pour gagner en pouvoir d'agir et donc en responsabilisation. On ne peut plus jouer non plus les victimes d'une société quand on a les cartes en main. Donc, on peut se re-responsabiliser, reprendre son pouvoir sur sa vie. Et de l'autre côté, on a aussi une évolution collective, puisque toutes les tâches jugées nécessaires, donc ça signifie aussi une participation pour l'évaluation de ça, ben, ça permettrait en fait de passer de cette chance qu'on a aujourd'hui d'être hyper productif avec l'automatisation, la numérisation, etc., et d'en le transformer en fait en investissant dans d'autres emplois pour la transition écologique, le soin, l'éducation, l'accompagnement de nos aînés. Désolé Bernard, non, tu en fais un peu partie. Alors, la preuve par l'expérimentation, parce que tout ça, pour l'instant, c'est des grandes idées. Sauf que, concrètement, le revenu de base est déjà expérimenté un peu partout et nous le prouve. Imaginez un exemple par rapport au temps de travail. Évidemment, la première question qu'on se pose, c'est « mais les gens sont fainéants, le système va s'effondrer ». Pas du tout, pas du tout. 4 expérimentations aux USA ont prouvé que les seuls qui travaillaient un peu moins, c'est-à-dire entre 10 et 30% de leur temps de travail, c'était les étudiants et les jeunes mamans. À une époque où il n'y avait pas ni congé maternité, ni bourse pour les étudiants. On était dans les années 70. En Alaska, qui a un revenu de base insuffisant, annuel, tous les ans, on a montré qu'en fait, une minorité passe au temps partiel. En Belgique, il y a eu une expérience sur, vous savez, les bienheureux qui gagnent au loto. Et là, c'est un loto qui est gagné, en fait, une fois par mois. Donc, ils gagnent une somme tous les mois jusqu'à la fin de leur vie. Est-ce qu'ils arrêtent de travailler ? Mais pas du tout. Ils continuent à travailler, mais c'est un travail choisi. La Finlande, finalement, un peu plus proche de nous, même en temps, ils ont fait une expérimentation sur 2000 chômeurs. Figurez-vous qu'avoir un revenu de base, donc être sécurisé dans ses revenus, ça stimulait encore plus la recherche d'emploi. Donc ça, c'est pour le temps de travail, mais pour l'emploi lui-même. Eh bien, figurez-vous que dans beaucoup de pays, on voit qu'avoir un revenu de base stimule l'emploi lui-même. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de création d'emplois parce que les gens, notamment en auto-entreprise, n'ont plus besoin d'un patron qui veuille bien leur accorder quelques heures suffisamment payées pour vivre. Non, en fait, ils créent leur activité à partir de leurs compétences, à partir de leurs envies. Donc, on voit par exemple en Namibie, après seulement 2 ans d'expérimentation, le chômage qui a chuté entre 45 et 60% et 300% de plus de masse monétaire sur le village, en plus de ce qui était donné sur le revenu de base. Donc, on voit en fait, et dans plusieurs pays d'Afrique aussi, et d'Inde, qu'un revenu de base, en fait, stimule l'emploi juste parce qu'il sécurise et qui permet cette liberté de choisir ses conditions de travail, d'être plus productif, entre guillemets. Je vous renvoie là-dessus sur les films. Il y a toute une petite série qui est sortie sur Arte, de mini-films qui s'appelle « Gagner sa vie », où vous retrouverez un témoignage sur l'expérience chez les Cherokees aux États-Unis, puisque ça fait 30 ans qu'ils ont un revenu de base, et dont on voit les effets sur l'emploi. Maestro, as-tu encore une pépite à nous partager avant d'entendre le témoignage de Catherine ?
Je t'en prie, mets le témoignage de Catherine parce que j'avais justement une chanson que je n'ai pas sélectionnée et donc que je suis en train de rechercher.
Alors, on va commencer par Catherine. Catherine, on t'écoute.
Ça n'a rien de savoir choisir,
travailler,
créer, n'importe quelle condition.
Moi, je dois dire que j'ai la chance, en fait, c'est pas un revenu de base que j'ai, mais c'est une activité qui me permet d'avoir énormément de temps pour moi. Et c'est une activité que j'ai vraiment choisie, après avoir vécu d'un travail qui m'a... Et puis émotionnellement en tous les cas, parce que c'était pas mon univers, donc je tenais pas le coup. Et je considère aujourd'hui que oui, ce serait un peu comme un revenu de base. J'ai une base pour pouvoir vivre mon quotidien et j'ai ce petit plus de travail qui me donne beaucoup de temps pour moi. Alors après, il faut se réapproprier ce temps. On apprivoise aussi le temps libre qu'on retrouve. Il faut un certain temps, oui. J'ai eu une période où effectivement je me suis un peu cherchée. Puis après, j'ai commencé à rentrer dans des associations et à œuvrer un peu plus. Et puis maintenant, j'ai d'autres envies. Il y a plein de choses qui sont nées de ça. Et c'est ce temps retrouvé là. Pour moi, je le vis un peu comme un revenu de base, avec une petite activité régulière, rémunérée, mais avec du temps pour moi.
Le peuple n'est pas simple, je t'ai mis dans la rue. Meuble pas en forme, tu te serais mis nu, tu te serais mis nu. Agrandir ta chambre, c'est ce que t'aurais voulu. Éviter mon ombre sur nos déconvenus, sur nos déconvenus. T'aurais tant voulu te baigner. T'en voulu te régaler des merveilles, de terre. Travail trop cher, travail trop cher. De madame, ça faut pas de soi. Ça va. On n'est pas exempt d'un malentendu, d'un malentendu. Être ou bien être, erreur irrésolue. Naître ou faire naître, l'envie continue, l'envie continue. T'aurais tant voulu te baigner au soleil. We'll be right back. soleil des merveilles. La terre travaille trop cher, travaille trop cher. Trop d'absence, faut pas de ça. Terres inconnues, un vacu on danse, le coq est cocu, le coq est cocu. Tu es en partance, à peine bien revenu, une longue absence, qu'on ne se soit plus vu, qu'on ne se soit plus vu. T'aurais tant voulu te baigner. Des merveilles de la terre, travail trop cher, travail trop cher.
C'était Dick Allengarn sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour cette émission Tous Essentiels consacrée aux revenus de base, le numéro 5, 4, je ne sais plus. En tout cas, c'est le travail aujourd'hui.
Avec, pour terminer, un appel solennel. Nous appelons les syndicats et les partis de gauche à se mobiliser pour prendre toute leur place dans ce monde d'après, avec un revenu de base évidemment, puisque c'est notre sujet. Alors, la première chose, c'est tout le sujet de notre émission. Le début de l'émission, c'était de faire comprendre de ce piège qu'est la valeur travail, qui devient valeur emploi dans sa version capitaliste. Donc, on va imaginer que vous, syndicat, vous n'êtes plus dans ce rêve que j'ai vu dans certains de vos dossiers, qu'un emploi de qualité est un facteur d'émancipation, peut-être ou pas, et choisi par qui, surtout. Donc, je vais mettre ça de côté, en estimant que vous avez compris maintenant. Et je fais un appel à vous parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour accompagner les travailleurs, alors individuellement, imaginons avec leur revenu de base, qu'ils aient envie de négocier leurs conditions de travail, de faire d'autres choix, peut-être de se mettre en auto-entreprise ou de partir en formation. Du coup, avec une revalorisation aussi collective, une réflexion collective sur ces changements du travail par rapport au numérique, par rapport au temps de travail, beaucoup d'entre les syndicats et les partis de gauche réclament une réduction du temps de travail, qui va tout à fait bien avec un revenu de base, ou en tout cas une réflexion aussi sur le SMIC, surtout ne pas le dévaloriser. Voilà, donc on anticipe qu'il y aura un rapport de force qui va bouger. D'ailleurs, en Inde, le syndicat qui accompagne une expérimentation de femmes a réussi à remonter leur salaire, c'est pas pour rien. Donc dans ce rapport de force, vous les syndicats, est-ce que vous pouvez prendre votre place pour que individuellement et collectivement, on puisse renégocier tout ça et choisir nos conditions de travail pour des emplois que nous choisissons et que nous reconnaissons comme utiles, Bernard ?
Je pense que dans un premier temps, il faut rappeler que ce qu'on a aujourd'hui, moi je relisais dernièrement un livre là sur les courets, les conditions de travail dans les filatures à l'époque, où les enfants, même à partir de 5 ans, devaient travailler parce que les gens n'avaient pas de quoi bouffer. Tout ce qui a été conquis, je ne parle pas d'acquis, hein, ça a été conquis de haute lutte depuis, avec tout le moment qu'il y a eu, le 1er mai à Fourmies, etc. Je revoyais un peu tout ça et je me dis que tout ça, c'était toute une histoire de lutte ouvrière. Le revenu de base aujourd'hui, si on le met en place, ce n'est pas une panacée en soi, ce n'est pas la fin de tout. Bien au contraire. Je pense qu'au contraire, ça peut libérer l'esprit des gens, leur redonner de l'autonomie et leur redonner le goût et le besoin de se battre pour aller encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens qui sont en marge de la société, au RSA, chômage, etc., énormément culpabilisés, ont peu de capacité de réagir, de manifester et de rejoindre des organisations syndicales. Et pour moi, le revenu de base, c'est un début à un changement profond de notre société. On ne va pas, c'est sûr, tout changer du jour au lendemain, mais je pense que ça peut libérer énormément de choses et permettre justement d'aller encore plus loin. C'est pour ça qu'il faut absolument préserver, même avec le revenu de base, préserver tout ce qui a été conquis en termes de protection sociale, retraite, chômage, etc. Tout ce qu'ils sont en train d'essayer de nous démolir aujourd'hui, et qu'ils vont continuer. Et pour ça, il faudra continuer à se battre. Et on aura besoin des organisations, on aura besoin des travailleurs. Je dis travailleurs, pas forcément salariés, parce qu'ils ne sont pas forcément dans l'emploi. Mais un chômeur, c'est aussi un travailleur.
Tout à fait.
Et justement, toutes les activités sont du travail qui intéresse l'ensemble de notre société. Et je pense que le syndicalisme est loin d'être mort et qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et jusqu'à maintenant, je pense, moi, dans mon expérience, depuis pratiquement 40 ans, je me suis battu pour essayer de préserver ce qui avait été conquis. Et on perd des choses, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de dire que les combats qu'on mène aujourd'hui, même s'ils n'apportent pas du plus à ce qu'on a, permettent de réduire en fait tout ce qu'on nous grignote. Et c'est d'empêcher qu'on nous grignote encore plus. Donc pour moi, tout ce combat-là est important. Il faut le continuer. Et avec un revenu de base, je pense sérieusement qu'on va pouvoir avoir d'autres conquêtes sociales, d'autres conquêtes ouvrières, etc.
Je me souviens d'avoir entendu lors d'une conférence à Sciences Po dire aux étudiants que le syndicalisme, c'était pas seulement, et on avait tendance à l'oublier, juste essayer, comme tu dis, d'éviter de nouvelles pertes, donc essayer de garder les acquis, mais qu'il fallait être plus ambitieux et oser revendiquer de nouvelles choses et ne pas se limiter finalement à rester dans le paradigme qu'on veut bien nous laisser, que le pouvoir en place nous laisse, et encore pas vraiment puisqu'il n'écoute même pas. Et je te remercie aussi parce que tu as rappelé que le revenu de base, c'est qu'un outil. Il ne faut pas l'oublier. C'est un outil qui est extraordinaire puisqu'il joue en même temps sur l'individu et sur le collectif. Il est d'une simplicité faisable. Et en même temps, ce n'est qu'un outil. Donc, il dépend aussi du projet de société. Alors, on ne parle pas des financements aujourd'hui, mais aussi des autres mesures qui sont mises autour. Et donc là, on a aussi besoin des organisations, qu'elles soient politiques et syndicales, pour, un, évidemment, repérer les régressions, donc le mouvement français pour le revenu de base le fait déjà, mais aussi les dérives. Donc quand j'entends, les salaires risquent de baisser, les employeurs risquent de se défausser d'une partie de leurs responsabilités, bon, ce qu'ils font déjà, mais encore pire, attention aux services publics, oui, fait attention, il faut garder la sécu, tout à fait. Mais là, on est d'accord. Et là, moi, ce que j'entends dans ces contre-arguments, entre guillemets, mais c'est pas des contre-arguments, c'est des oui, mais attention, donc oui pour le revenu de base et restons vigilants avec les organisations qui savent déjà faire ça et finalement qui peuvent soutenir, donc s'intéresser aux différents projets de société qui incluent des revenus de base. Je pense par exemple, si vous êtes intéressé par l'économie sociale et solidaire, il y a la version des décroissants pour un revenu de base dans le cadre d'une transition écologique. Pour la reprise en main des outils de travail par les producteurs eux-mêmes, on peut parler du salaire à vie qui est mené par Bernard Friot et le réseau salarial. Je pense, Bernard, que tu l'as rencontré. Est-ce que tu veux nous parler rapidement du salaire à vie ?
Oui, justement, dans mes activités retraite, j'ai participé quand même à un certain nombre de débats et j'ai eu l'occasion de rencontrer Bernard Friot. Je suis assez d'accord avec ce qu'il propose, mais c'est un projet excessivement ambitieux. Et au moment, dans le débat, quand j'ai évoqué le revenu de base, bon, Bernard Friot, c'est quelqu'un d'assez fort, violent. Il a été même, je dirais, presque insultant par rapport à ce que j'avais dit. Mais j'ai eu l'occasion de reprendre la parole après et de lui dire « Mais oui, mais tu nous as expliqué qu'il a fallu 5 siècles pour que le capitalisme s'installe et qu'il faudra longtemps pour l'éradiquer et pouvoir arriver à ce projet. » Dans l'intervalle, j'ai rappelé qu'il y avait une personne dans la salle, retraitée, qui vivait avec 600 euros par mois, qui survivait avec 600 oui. euros par mois. Et je dis dans l'intervalle, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là ? Est-ce qu'on attend quelques siècles pour pouvoir leur permettre de vivre dignement ? Et là, j'étais quand même très content parce qu'un mec comme ça, il a eu un peu la chicoupée, si je peux me permettre l'expression.
Alors, je vais redévelopper, reprendre un petit peu en arrière. Donc, effectivement, le revenu de base pour nous pourrait être un très bon trépied, un premier pas vers le salaire à vie, qui effectivement est ambitieux puisqu'il part du principe que chacun est producteur et que du coup, les ouvriers, par exemple, d'une usine, doivent pouvoir reprendre en main leur outil de travail, l'usine elle-même, pour prendre les rênes des décisions et leurs conditions de travail. Donc, on est dans un système d'autogestion avec aussi toute une resocialisation des salaire qui fait en fait qu'à partir de 18 ans, selon cette version-là, on recevrait entre 1500 et 1800 euros tous les mois attachés à la personne et non pas à un emploi, à une qualification et du coup qui permettrait d'être en même temps d'avoir ce côté revenu de base puisque tout au long de la vie, vous êtes sécurisé par un revenu, que vous ayez un emploi ou non, avec différents degrés selon les qualifications que vous pourriez acquérir au fil de la vie. Et en même temps, une espèce de fusion entre salaire et revenu de base. Donc un certain nombre de personnes, comme toi Bernard, être en même temps au MFRB pour soutenir ce premier pas qu'est un revenu de base, on exclut évidemment les régressions, pour donner la possibilité à d'autres versions comme le salaire à vie de pouvoir s'installer, puisque ça veut dire autogestion, ça veut dire éducation populaire, ça veut dire reprise en main, etc., des outils de travail.
Un peu plus long, quoi.
Oui. Donc tout là, tout de suite, un revenu de base, parce qu'il faut sauver les gens, il y a des vies en jeu à très court terme, encore plus avec le confinement, le Covid, etc. Et du coup, relâcher un petit peu les serres, laisser un peu de marge de manœuvre pour que les personnes puissent s'investir, choisir leur revenu de base et pourquoi pas aller jusqu'à une refonte totale du système économique avec une socialisation de tous les salaires. Je vous renvoie au site du réseau Salaria.
Eh bien, figure-toi qu'il est quasiment l'heure de se dire au revoir, Virginie.
Ah, déjà, mais on ne s'ennuie pas.
Oui. Mais on se retrouve cet après-midi.
Oui. Alors, juste une chose quand même, n'oubliez pas de signer l'initiative citoyenne européenne pour soutenir les expérimentations. Pour l'instant, on est à 11%. Allez, il faut se réveiller là. Et en plus, les Français, on est à 15%. Allez, il faut se réveiller. Donc, vous tapez ice.mfrb.fr. Vous signez cette initiative citoyenne européenne pour avoir des expérimentations de revenus de base en Europe et vous partagez à tous vos amis ou pas.
Voilà. Tout essentiel est maintenant quasiment terminé, mais on se retrouve le mois prochain. Ce sera quoi le thème du mois prochain, dis-moi ?
La santé.
Eh ben, tu reviens alors du coup, Bernard.
Ne pas perdre sa vie, elle a gagné. Ne pas être malade ni du travail, ni du chômage.
Et puis, quant à nous, on se retrouve également cet après-midi à 17h pour un épile-poil la compile qui prolonge cette émission. On se quitte avec les betteraves pas travaillées. C'est parti.
Quand j'allume ma télé, je vois tous ces gens super friqués. Une seule chose me trotte dans la tête, je veux passer mes nuits à faire la fête. Je veux m'acheter plein de voitures, une villa sur la Côte d'Azur, avoir un appartement dans le 16e et passer une vie mondaine. Je veux avoir des filles à mes pieds, mais je veux pas. Non, je veux pas. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Non, je veux pas. Mais non, je veux pas.
Je veux pas travailler.
Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Non, je veux pas, non, je veux pas travailler.